Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui vient nous parler des 25 ans d'Action Autonomie. Plus tard à l'émission, à l'Espresso et à l'Espresso Allongé, le sujet sera « Hitler était-il un malade mental? » En début de deuxième demi, notre invité est Mitsou Lefebvre La France qui vient nous parler pour sa part du rebond. Alors tout ça dans le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Cléa Vincent et la chanson s'intitule « Je ne m'y attendais pas ». Bienvenue à Folie Douce.
Des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts, ils n'ont pas tenu longtemps. L'amour sans horizon, je l'ai vu 10 fois 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne
je suis tombée sur toi, je m'y attendais. écoutez l'émission Folie douce qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 25 ans.
Je m'entretiens maintenant avec notre chroniqueur Jean-François Plouffe de Action Autonomie. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce.
Merci.
On a parlé de plusieurs sujets ensemble et c'est bon quelquefois de rementionner la mission d'Action Autonomie, d'ailleurs, qui a fêté ses 25 ans récemment, tout comme l'émission Folie douce, on a à peu près le même âge, donc des années début 90 où tout était pas mal à faire en termes de santé mentale. Il faut pas dire que c'est réglé non plus encore, mais c'est bien peut-être de faire une présentation d'Action Autonomie un peu plus élaboré que qu'est-ce qu'on fait d'habitude à chaque chronique.
Oui. Alors, Action Autonomie, c'est un groupe qui a été fondé par des personnes qui étaient préoccupées par la question de la défense de droit en santé mentale, qui n'était pas quelque chose d'aussi connu que maintenant. Maintenant, ça existe dans tout le Québec. Il y a des groupes de défense de droit dans tout le Québec.
Ouais.
Mais au début des années 90, ça n'existait pas comme ça. Donc, ils ont commencé sous un autre nom quelques années plus tôt. C'était Autopsie. Et en 1991, c'est devenu Action Autonomie, où le groupe a commencé à se structurer un peu plus.
Oui.
Et ce qui démarque ce groupe-là, c'est d'abord ce qu'on appelle l'action par et pour. On ne veut pas parler à la place des gens, prendre la place des gens, agir de façon paternaliste avec les gens alors qu'on le reproche aux autres de le faire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt pas parler en leur nom, mais leur donner des outils pour qu'elles-mêmes puissent faire valoir leurs droits.
Et ça a toujours été comme ça depuis le début. Vous avez été assez fort. C'est pas évident. C'est facile de changer de direction si on tient pas les guides serrés. T'sais, dans le fond, si on fait pas toujours attention à notre mission, c'est facile de se perdre.
Oui.
Mais je pense que vous avez réussi à conserver cette idée-là du départ.
Bien, d'ailleurs, le nouveau nom qui a été adopté en 1991 rappelle cette mission-là. On est dans l'action avec les personnes, mais on préserve leur autonomie.
Est-ce qu'il y a des gens du début de 91 qui sont toujours là?
On en a quelques-uns. C'est sûr qu'en santé mentale, les gens vont et viennent. À un moment donné, puis c'est correct et c'est normal,
oui.
On passe un peu à autre chose dans notre vie quand on a vécu des problèmes de ce côté-là.
Oui.
Mais encore tout récemment, là, pour le 25e, il y a des gens, des fondateurs qui étaient avec nous, puis qui continuent à s'intéresser à ce qu'on fait et qui continuent de trouver ça important. Donc nous, ça nous rend très heureux parce qu'on se rend compte là, de tout le chemin parcouru et de tout la quantité de gens qu'on a pu aider au cours de toutes ces années.
Et c'est pas nécessairement que des personnes qui ont vécu des problèmes de santé mentale, c'est des gens qui ont ça à cœur et qui sont prêtes à aider, dans le fond, la société. Tu sais, c'est une partie de la société qui a des problèmes de santé mentale. Mais
oui. En effet, on a deux types de membres.
Oui.
Les gens qui sont membres actifs chez nous sont des gens qui, à un moment donné, à un moment ou l'autre de leur vie, ont vécu ou vivent encore actuellement un problème de santé mentale. Mais on a aussi des membres dits sympathisants qui, eux, n'ont pas nécessairement eu de diagnostic. C'est sûr que personne n'a une santé mentale absolument optimale tout le temps, mais il y a des gens qui n'ont pas été diagnostiqués, qui n'ont pas été suivis là-dessus, mais qui sont quand même, soit qui ont un membre de leur famille ou qui s'intéressent à ça par eux-mêmes. Donc, ces gens-là peuvent devenir membres sympathisants chez nous.
Oui. Et bien sûr, vous avez, je pense, certains sujets de prédilection. Vous avez certains thèmes que vous occupez un peu plus, les droits, entre autres.
C'est ça. On a deux grands volets d'action, si on veut. D'abord, on fait de l'aide individuelle. C'est notre mission de base. Des gens qui nous appellent, qui sont en détresse, qui sont pris à l'hôpital, qui ne peuvent plus sortir, qui se demandent ce qui leur arrive puis qui ont besoin d'aide, ils tombent souvent sur nos dépliants et ils nous appellent et nous, on leur donne des conseils, puis on les aide à essayer de sortir de ces situations-là. Donc, on retrouve beaucoup des gens qui sont en garde en établissement en vertu de la loi P38, des gens qui sont forcés de prendre des médicaments contre leur gré puis qui ont des jugements de cour, ce qu'on appelle des ordonnances de soins ou des autorisations judiciaires de soins. Et on a aussi toutes sortes de gens qui vivent du paternalisme, qui vivent de la condescendance avec leurs intervenants, qui leur font pas confiance, qui les écoutent pas, qui vont pas dans le sens de ce que eux voudraient aller, qui vont pas dans le sens du développement de l'autonomie des personnes et qui souvent font des interventions qui gardent la personne dans un état de dépendance. Donc nous, on essaie de donner des outils à ces personnes-là pour qu'elles puissent elles-mêmes là essayer de faire valoir leurs propres droits.
Chez Action autonomie, avez-vous une équipe, disons, multidisciplinaire pour pouvoir, tu sais, on parle souvent de droit, mais tu sais, il faut quand même connaître les lois à part de s'intéresser puis éventuellement d'avoir, avec l'expérience, on en sait plus, là. Ouais. Est-ce que vous avez quand même des personnes ressources qui sont prêtes à vous aider?
En fait, chez nous, on a des personnes qui sont en poste depuis plus de 20 ans.
Ouais.
Certains membres de l'équipe de travail ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expertise et d'expérience dans ce domaine-là. Et il y a des gens qui sont arrivés plus récemment aussi, qui sont plus jeunes, qui ont parfois des visions un peu différentes. Puis ça fait finalement un mélange là, très, très intéressant. On se parle beaucoup, on fait des réunions d'équipe toutes les semaines et on met beaucoup de choses en commun là, de façon à avoir une espèce d'approche commune, mais qui respecte aussi l'individualité de chacun.
Et il y a des gens permanents, il y a des gens aussi qui gravitent dans Action Autonomie. C'est quand même pas une énorme boîte, mais vous faites beaucoup de travail. On entend beaucoup parler de vous.
On est une équipe de 7 personnes, de 7 employés, et autour de ça, on a à peu près 80 membres qui sont plus ou moins actifs selon le moment, mais on essaie beaucoup de faire nos actions avec nos membres. Par exemple, quand on va donner des formations à l'extérieur, bien, on essaie, en tout cas dans la mesure du possible, d'amener avec nous des co-formateurs, des gens qui sont des personnes qui ont vécu la situation qu'on va décrire ou une situation qui s'y apparente, de façon à ce que les gens qui nous écoutent n'aient pas seulement un exposé théorique de ce que c'est que les violations de droits en santé mentale, mais puissent voir devant eux une vraie personne qui a vécu ce genre de choses-là et à qui ils peuvent poser des questions. Là, puis ça vient beaucoup enrichir là, le contenu qu'on peut transmettre.
Et ça vient encore montrer encore plus votre mission d'accompagner, d'impliquer les gens. Vous n'êtes pas juste. C'est ça que je trouve beau parce que c'est de le dire, mais de le faire aussi, c'est ce que vous faites.
C'est ça. On essaie de le faire dans le quotidien.
Ouais.
On applique une méthode qui s'appelle le self-advocacy en anglais qu'on n'a jamais vraiment réussi à traduire. Mais l'idée, encore une fois, c'est toujours de donner à la personne des outils et non pas d'intervenir à sa place. Nous, on dit, quelqu'un qui a un problème avec son travailleur social, par exemple, on pourrait aller chercher une procuration puis aller parler nous-mêmes au travailleur ou à la travailleuse sociale. On le fait de temps en temps, mais ce qu'on essaie de faire le plus souvent, c'est de fournir une sorte d'argumentaire aux personnes pour leur dire, essaie de lui dire ceci, essaie de passer par tel chemin, de façon à lui faire passer un message clair. Et dans la plupart des cas, ça fonctionne, puis les gens progressent tranquillement vers une meilleure qualité de vie puis une plus grande autonomie.
Oui, on parlait des deux volets, donc l'aide individuelle, l'action collective, on entend beaucoup parler de vous aussi, les grandes questions, que ce soit le PASM ou que ce soit des grands sujets là, qui intéressent la population en rapport avec la santé mentale, vous êtes présent et vous frappez fort quand c'est le temps. Là.
On essaie d'être le plus présent possible dans les médias, quand il y a des événements qui impliquent, on en a entendu parler beaucoup, certains ces derniers mois, des gens qui sont étiquetés avec problèmes de santé mentale et qui sont victimes ou qui posent des gestes violents, etc. Ouais. On est porté à se ramener vers nous un peu pour donner l'autre côté de la médaille, parce qu'on est souvent porté à dire, ah, ben, ces gens-là sont dangereux, il faudrait les enfermer, ils prennent pas leurs médicaments, ben, il faudrait qu'ils les prennent, puis s'ils les prenaient, ils seraient mieux. La réalité est pas si simple que ça. Et nous, on réussit, dans la mesure du possible, à donner le revers de la médaille, puis à faire évoluer l'opinion publique un petit peu vers plus que ce qu'on peut voir là, à première vue de ces personnes-là.
Et je pourrais dire qu'Action Autonomie aussi n'est pas considérée comme très crédible aussi. Tu sais, il y a certains groupes, des fois, tu as l'impression qu'il n'y a pas le côté crédibilité, mais dans votre action, il y a une action, disons, dynamique et présente et tout ça, mais ce que vous dites fait du sens. Donc ça...
Oui. Et on essaie aussi d'aller dans les milieux d'enseignement parce que c'est là que se forme la relève.
Oui.
Les gens du milieu de la santé qui vont être là demain. Et on essaie, l'objectif qu'on se fixe aussi, en quelque part, c'est de changer la culture, notamment dans le milieu hospitalier, dans d'autres domaines de la société aussi, mais de changer la culture qui est un héritage du vieux passé des asiles psychiatriques qui est encore très, très présent dans le milieu de la santé. Puis on essaie de dire, bien, les personnes que vous avez devant vous, ce ne sont pas que des malades, ce sont des citoyens, ce sont des gens qui ont des droits, la charte des des droits et libertés à laquelle on tient beaucoup en théorie, ben elle s'applique aussi à ces personnes-là, malgré leur vulnérabilité, malgré leurs problèmes. Et donc, c'est ce message-là qu'il faut passer régulièrement. Puis il faut le passer non pas uniquement aux gens qui sont sur le plancher dans les unités, mais il faut aussi le passer aux cadres et il faut aussi le passer aux ministres à Québec. Parce qu'il s'est donné des moyens d'encadrer très, très fermement son réseau. Et nous, ben, on a fait des interventions auprès de lui ces derniers mois et on lui dit que c'est bien la médication, l'approche médicale, etc., mais il y a d'autres moyens d'aider des personnes qui ne répondent pas bien à des traitements médicaux. Et si elles ne répondent pas bien à des traitements médicaux, c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'elles sont entêtées, etc. Si elles refusent de prendre des médicaments, par exemple, c'est peut-être parce qu'il pourrait y avoir d'autres approches que l'approche médicale qui pourraient mieux fonctionner chez elles.
Il y a aussi ce qui vous aide beaucoup, je pense que vous avez pris l'initiative de faire ça, il y a beaucoup de travaux de recherche qui viennent appuyer parce que les recherches sont importantes, on veut faire un portrait de quelque chose qui est compréhensible. Ça, ça vous aide aussi à pousser plus loin le message.
Oui, on documente des choses qui ne sont documentées par personne. Par exemple, on fait à peu près tous les 5 ans une recherche sur l'utilisation, l'application de la loi P38 sur la garde en établissement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a à peu près aucune donnée là-dessus. C'est nous qui colligeons ces données-là et qui les partageons par la suite avec le ministère et avec l'opinion publique. Et si on n'était pas là pour faire ça, ben, il n'y a personne qui le ferait. Et ces gens-là seraient enfermés, privés de leur liberté arbitrairement, dans l'indifférence la plus générale, parce que ces gens-là n'ont pas de voix, ne peuvent pas faire de bruit, n'ont pas beaucoup de crédibilité. Ils portent ce que nous, on appelle le stigmate de la folie qui leur enlève toute espèce de crédibilité. Et donc, personne ne s'occupe d'eux.
Donc, ça prend quelqu'un. Est-ce que dans les 25 ans, donc on parlait des 25 ans d'Action Autonomie, est-ce que vous êtes un peu, tu sais, 25 ans, c'est une espèce d'étape importante, un quart de siècle. Est-ce que vous êtes un peu remis en question en disant, est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Est-ce qu'on pourrait changer les choses? Malgré que vous avez, on sent dans votre approche que ça a toujours été très, très rigoureux puis toujours gardé la mission de départ, mais avez-vous eu un peu cette interrogation-là entre vous?
Bien, c'est une approche qui a fait ses preuves. Par rapport au feedback permanent qu'on a des personnes qu'on a aidées, qui deviennent souvent membres chez nous, etc., qui restent longtemps avec nous, on est sur l'impression que notre approche est la bonne. Et bien sûr, elle se raffine. On essaie là, de trouver des moyens nouveaux d'intervenir, de trouver des nouvelles façons de se faire comprendre, par exemple, des nouvelles générations. Ouais. Il faut ajuster un peu notre langage, etc., puis nos messages. Mais en général, c'est une méthode, c'est une approche qui nous semble avoir fait ses preuves et on entend poursuivre dans cette voie-là.
Oui, vous êtes confortable avec ça, puis on est bien content que vous puissiez aussi nous l'expliquer ici en onde. On a quelques secondes encore, Jean-François, pour bien sûr les coordonnées. Action Autonomie, vous êtes très rejoignable et très ouvert justement aux gens qui veulent en savoir plus, allez vous voir, peu importe.
Voilà. Et effectivement, s'il y a des gens qui veulent devenir membres de notre organisme, qu'ils aient ou non un passé en santé mentale, on accueille tout le monde. On fait pour les nouveaux membres des rencontres d'information pour leur expliquer exactement là, comment nous, on fonctionne puis c'est quoi la contribution qu'ils peuvent apporter à ça. Donc, c'est vraiment une approche très, 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 très transparente qu'on offre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait, ils peuvent nous rejoindre au 514-525-5060 ou ils peuvent aussi consulter notre site Internet au www.actionautonomie.qc.ca.
Merci beaucoup, Jean-François Plouffe, d'avoir été des nôtres. Et on a encore mieux connu Action Autonomie et on va le connaître encore dans tes prochaines chroniques.
Ça a été un plaisir, comme à chaque fois.
Oui, merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. Yeah. You can't find where the body goes. It's just like searching for the concept that takes you down an old forgotten road. Been told, and it leaves you there, hopeless, to show you how.
how the water flows, to feel the empty hand of doubt is something like a stepping stone. When my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame, where the bright light flickers inside, it's like a burning flame. When my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt feeble like a burning flame, where the bright light flickers inside. You've been a charmer, a thief with a heart of gold, but you'd be the witness with your eyes and tell me how to believe when you've been fooled. And you see them there, passengers in the body, hope they feel it too. And the wheels that turn open keep burning like an old steam train. But my heart fell deeper when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame. When my heart fell heavy, when I felt troubled, yeah, when I felt deeper than a burning flame.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604. 514-990-9604.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Gilles Malo.
Bonjour.
Alors aujourd'hui Pierre, tu nous poses la question, Hitler était-il un malade mental? Tu y vas fort.
question tendancieuse.
Oui, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diraient oui. C'est un malade mental. Mais il y a un monsieur, un médecin français du nom de Paul Lefort, qui avait écrit un livre qui s'appelait « L'escroc ». Il dressait le portrait d'Hitler à travers le prisme de la psychiatrie moderne. Le livre « L'escroc » est aux éditions Percé. Oui, pourquoi je vous parle de Hitler aujourd'hui, c'est que en 2015, on fêtait les 70 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de documentaires là-dessus qui sont passés à la télévision et ils ont passé en reprise aussi assez souvent. Puis ça me faisait penser, est-ce que... Oui, c'est sûr qu'on peut croire que Hitler, pour être un homme si méchant, devait avoir des problèmes de santé mentale, et ses proches collaborateurs aussi.
Ça n'a jamais été mentionné ou il n'y a jamais eu comme de diagnostic,
ouais, mais sauf que...
Ben, en tout cas, ce monsieur, Paul Lefort, lui a examiné Hitler, a fait le portrait d'Hitler.
Sauf qu'on ne peut pas absoudre ses crimes pareils.
Non, mais tu vas voir au fur et à mesure de l'article. Alors, il nous dit, question fondamentale, Hitler était-il porteur d'un trouble mental ou était-il sain d'esprit? Dès son jeune âge, il apparaît comme un enfant brouillon et entêté, ne consacrant son attention qu'à ce qui l'intéresse et peu enclin à assumer ses responsabilités. Il ne réussit pas même à obtenir son diplôme d'études secondaires. Après son refus d'admission à l'École des beaux-arts, il ne trouva jamais d'emploi stable et il vécut au crochet de sa mère. Il admirait l'influence de la minorité allemande en Autriche et il acquit ainsi la conviction inébranlable de la supériorité de la race aryenne. Fasciné par la guerre, il se sentait investi de la mission de livrer une guerre sans merci pour asservir l'Europe à la race aryenne dans un Reich, n'est-ce pas, qui veut dire, en allemand, qui veut dire empire, qui devait durer 1000 ans. Vers la même époque, un courant anti-humaniste apparaissait dans la littérature et prétendait que les hommes étaient soumis aux mêmes lois que les animaux, établissant ainsi le principe attribuant au plus fort tous les droits. Il existe relativement peu d'ouvrages traçant un portrait de la santé mentale du Führer, qui veut dire en allemand le Lieder. Plusieurs opinions divergentes ont été émises, qualifiant Hitler de malade mental ou lui attribuant un trouble de personnalité, alors que d'autres affirment qu'il ne présentait aucune problématique mentale. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que ces gens-là, je parle de Hitler et de ses proches, étaient tellement ingénieux dans leur cruauté qu'on se dit, ben c'était des gens méchants, mais c'était pas des malades.
Et est-ce que d'avoir une façon de voir la vie qui n'est pas nécessairement bonne, est-ce que c'est une maladie mentale? C'est oui. Ça aussi, là?
On va voir un peu plus loin. Les données historiques ne montrent aucune brisure dans son niveau de fonctionnement durant sa vie publique, ce qui supporte l'hypothèse d'une absence de trouble mental. Par contre, il faisait preuve d'une mégalomanie sans borne dans sa conviction d'être le porteur d'une mission divine et dans ses relations avec ses collaborateurs, chez qui il ne tolérait aucun désaccord. Il se qualifie clairement pour un diagnostic de trouble de personnalité narcissique. D'autre part, le mépris qu'Hitler démontrait devant les valeurs permettant des rapports harmonieux entre les personnes, comme l'honnêteté, la sincérité et le respect de ses engagements, ainsi que son choix explicite pour le mensonge et la tromperie, le qualifie pour un trouble de personnalité antisociale. Enfin, l'absence totale de compassion envers la souffrance, le vide affectif dans ses relations interpersonnelles et l'absence de peur, ainsi que le choix de s'exposer dans des situations risquées, soulèvent une possibilité de diagnostic de psychopathie.
Et s'il y avait eu le DSM-5 à l'époque, je pense qu'il y aurait probablement eu plusieurs diagnostics là, sur Hitler.
Sûrement.
Mais ça ne l'aurait pas empêché quand même d'être élu.
Il a été élu, oui, c'est vrai, parce que c'était un excellent manipulateur de foule. Mais il a fait exécuter, ou il a exécuté lui-même, tous ceux qui s'opposaient
à
lui.
Oui, après sa victoire.
Alors, ça dépend comment on regarde ça. Son diagnostic final se lirait donc comme suit. Trouble de personnalité mixte, narcissique et antisocial avec traits de psychopathie. Ceci implique que le dérapage nazi avec son cortège de violence et de cruauté ne peut pas être considéré comme un accident de parcours déclenché par un malade mental. Il s'agit d'un projet longuement préparé qui a bénéficié d'un contexte favorable et qui a été piloté par un fanatique déterminé à atteindre des objectifs raciaux indéfendables par n'importe quel moyen. Là, je saute un peu plus loin. M. Stanley Milgram de l'Université Yale a réalisé une étude au début des années 60 sur les éléments influençant le comportement lors de conflits entre l'autorité et la conscience individuelle. On faisait croire aux sujets observés qu'il s'agissait d'une expérience sur l'apprentissage par la punition. Et on avait placé derrière une vitre un présumé apprenant qui devait retenir des mots sous peine de recevoir un choc électrique d'intensité croissante. Sous la direction d'un expérimentateur, les sujets devaient initier l'administration de choc à 15 volts, puis ils devaient augmenter par palier de 15 volts jusqu'à une puissance maximale de 450 volts. En fait, l'acteur ne recevait aucun choc électrique, mais il simulait une souffrance croissante et à partir de 150 volts, il suppliait de mettre fin à l'expérience. J'y reviendrai tantôt.
Oui, on poursuit sur Hitler. Était-il un malade mental plus tard à l'émission? Merci Pierre, merci Ghislain. Demeurez des nôtres à Folie douce.
Retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Mitsou Lefebvre-Lafrance. Bonjour Mitsou.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Bien.
Assez bien. Ta première expérience à la radio?
Je pense que oui, oui.
Mais ça va bien aller, je suis certain, parce que tout le monde qui passe ici aime ça et a le goût de revenir. Alors, mm-hmm. Je pense que ça va être très, très bien. On va parler ensemble du Rebond, qui est un organisme. Tu es membre de cet organisme-là depuis pas mal les débuts de l'organisme. On veut tout savoir. On n'a jamais parlé du Rebond à l'émission Folie douce. Donc, tu vas être la bonne personne, je pense, pour nous expliquer. Qu'est-ce que c'est le Rebond? C'est un organisme en santé mentale?
Oui, en fait, c'est un organisme en santé mentale qui se démarque comme les autres ressources qui sont alternatives. C'est une approche qui est un peu différente.
Ouais.
On se voit un peu comme un complément à d'autres services.
OK.
On remplace pas autre chose, on est juste autre chose. C'est géré par les membres, pour les membres,
okay.
avec l'aide de l'entourage, la communauté et tout.
Il n'y a pas tant d'organismes qui sont... il y en a un peu, des organismes comme ça, qui sont gérés par et pour, là. Mm-hmm. Mais c'est pas... en général, c'est plutôt des gens qui s'intéressent au domaine et qui donnent... qui intègrent, disons, des membres là, qui ont pu avoir des problèmes de santé mentale. Oui. Alors que vous, c'est plus pas mal... C'est vraiment du par épaule.
Oui. En fait, la différence, ça va être au lieu de rendre des services,
ouais.
ça va être d'impliquer les gens dans les activités. C'est animé, en fait, par les membres.
Ouais.
Tout est décidé le plus possible
ouais.
avec les membres.
En comité,
En comité qu'on a décidé à un moment donné d'appeler plus équipe.
Ouais,
c'était
ouais.
plus intéressant que les comités. Mais c'est ça, ce qui arrive, c'est qu'on essaie de ne pas être hiérarchique trop,
okay.
d'avoir le pouls de tout le monde à peu près,
ouais.
de se consulter. Ça prend plus de temps là,
à gérer,
mais ça va plus loin comme ça.
C'est plus transparent, puis peut-être que ça donne aussi un meilleur sentiment d'appartenance peut-être aux gens.
Oui, puis ça donne l'opportunité de voir ce qu'on est capable de faire et ouais. pas juste... qu'on n'est pas capable de faire.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que... D'abord, ça existe depuis combien de temps, le rebond?
Je sais que ça fait des années que ça se trame. En 2010, il y avait une volonté dans le quartier, mais c'est pas à partir de... C'est plus à partir de 2014
ouais.
que là, le CA provisoire, tout ça, travaillait, des organismes du quartier,
C'est Rosemont, le quartier, c'est ça?
C'est Petite Patrie. Oui, ouais. Ça s'adresse à... genre dans la communauté de Petite Patrie, Villeray, Rosemont,
ouais.
mais on est ouvert à Montréal. Il n'y
ouais.
a pas de code postal à l'entrée, pas de...
Tous les gens qui sont intéressés par vos types d'activités puis votre façon de fonctionner sont bienvenus.
Oui,
là,
c'est ça.
Ouais. Puis est-ce que, tu me disais avant d'entrer en onde quand même que tu sais c'est quoi la santé mentale, parce que tu as vécu des choses.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si tu veux nous en parler un peu, mais juste c'est probablement ça qui t'a aidé à prendre part à cet organisme.
Oui, en fait, on fera pas le topo de ma vie,
non,
mais après avoir tenté de me rétablir plusieurs fois, puis suite à un suivi au CLSC, j'avais aussi des implications avec un groupe d'action et réflexion en santé mentale, le GARP. Puis on faisait de la participation citoyenne, on aide à améliorer les services et tout. Puis avec eux autres, ben, on était interpellés avec cette nouvelle ressource-là qui allait naître à donner notre avis, parce que c'est du par et pour, donc ça
ouais.
serait important que les gens concernés puissent donner leur avis.
Exact.
Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le CA
okay.
provisoire. En fait, il y avait toutes sortes d'organismes, l'écho des femmes, écoute entraide, il y avait plusieurs gens, ça serait tellement long de les nommer, on aurait
ouais.
fini l'entrevue, mais c'est ça, ça a été une volonté des citoyens et des gens. C'est vraiment une participation citoyenne qui a fait naître le rebond.
Donc il y avait une volonté d'avoir ce type d'organisme-là, parce qu'il y en a
oui.
des organismes dans Rosemont, sur l'île de Montréal, mais ce type-là particulièrement, peut-être il manquait. Hein?
Oui, dédié à la santé mentale, il n'y en avait plus à ce moment-là
okay.
dans le quartier
okay.
qui était dédié. Puis on a eu beaucoup aussi de soutien d'une organisatrice communautaire du CLSC qui a soutenu tout le long les démarches, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on dit on n'est pas fermé, on n'est pas un groupe fermé par et pour seulement pour nous, mais on est ouvert à la communauté. Donc
ouais.
On travaille en collaboration avec d'autres organismes.
Ouais. Sur votre site, c'est ça, la description, je pense, elle dit bon, c'est un organisme communautaire alternatif qui
mm-hmm.
est issu justement, comme on disait, de la communauté. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement? Donc, comment ça se passe? Les gens vous appellent d'abord, se présentent?
Dépendamment des activités, comme, admettons, on avait commencé par un groupe, une des premières activités qui est née avant qu'on ait même un local fixe. Il nous avait été prêté un local pour un groupe d'écriture, un atelier d'écriture que Roger a voulu partir. Lui, il se sentait à l'aise avec ça, donc... Moi, c'est un groupe plus qui va être plus, admettons, sur inscription.
Okay.
Moi, mon groupe, je l'ai parti par après avec l'initiative de gens dans le sud-ouest pour le trouble d'accumulation compulsive
ah, oui, d'accord.
que moi-même j'avais. Puis c'est ça, ils m'ont initié à partir un groupe de parole, moi aussi,
okay.
là-dessus. Mais ça, c'est un groupe ouvert. Ouais. Donc, à ce moment-là, pas de besoin d'inscription, on se pointe. Puis,
c'est on ça, a on un
est,
horaire.
On n'est pas obligé d'être là un mois. Puis, tu sais, on peut être
l'autre,
là.
L'autre, on n'est pas là. C'est okay, ça. D'accord.
Dépendamment des activités, il y a des inscriptions ou non.
Ouais.
Parce que c'est pas un très grand local non plus.
Ouais.
Puis, dépendamment aussi des activités, il y a différents locaux pour l'instant. Il y a des moments où il faut être 30, donc on a un endroit prêté par la paroisse.
Et ça prend ça, parce que dans les organisations qui débutent, et même celles qui sont là depuis des années, mm-hmm. ont toujours cet enjeu-là de travailler avec l'argent. Tu sais, on dit souvent l'argent, là, puis tu sais, ça prendrait des fois pas grand-chose juste pour donner un petit coup de pouce, pour assurer au moins des services, puis que tout le monde respire, mais c'est toujours l'enjeu, puis comme votre organisme est assez
nous,
jeune.
Nous, il va toujours, en fait, avoir une part de bénévolat, ou puis moi, j'appellerais plus ça une implication que du bénévolat. Mais ça implique que, admettons que je fais mon activité, c'est moi qui l'anime, bon, à part un remboursement de transport, il n'y a pas de rémunération liée à ça. Donc, mais ça, c'est voulu qu'on s'implique puis qu'on fasse des activités puis que l'idée, ce ne soit pas de faire un profit avec ça. Là. Il n'y a aucune de nos activités qu'on charge. Donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment important pour l'accessibilité qu'il n'y ait pas de prix d'entrée pour les activités. Donc, tu sais, on a café, biscuits, des choses comme ça. Ça fait partie de, je ne sais pas, moi, une compensation C'est ça, l'implication qu'on donne. Mais c'est qu'on veut que les gens puissent arriver avec des idées. Ah, ben moi, j'aimerais animer, comme là, il y en a une, elle avait l'idée d'animer un groupe de danse expressive.
Ouais.
Donc maintenant, on a de la danse expressive. Il y a le samedi ensemble où les gens se retrouvent, qui a été initié par un membre aussi. Donc, il y a toutes sortes d'activités comme ça qui partent d'initiatives d'un membre, mais confirmé par le désir des autres aussi de faire l'activité.
Et le rebond, l'organisme Le Rebond est ouvert combien de jours par semaine et de quelle heure à quelle heure en général?
Ben en fait, on est ouvert un peu tous les jours dans le sens
donc,
que...
Donc, il n'y a pas
un
horaire fixe, c'est ça?
Parce que, en fait, on a seulement un coordonnateur en ce moment qui est là 4 jours semaine. On n'a pas les moyens de plus que ça.
C'est sûr.
Mais c'est ça, on va voir quelqu'un. Ben, il y a déjà quelqu'un aussi qui s'est occupé des activités et tout.
Ouais.
Il y a le groupe d'art le dimanche, qui est un autre... ça, c'est un projet qui est financé avec Engrenage Noir. C'est de l'art plus engagé ou en tout cas où ce qu'on peut s'exprimer, s'affirmer et tout ça. Mais c'est ça, c'est un horaire qu'il faut vraiment vérifier. parce que c'est pas... les activités sont souvent l'après-midi, en fait. On est plus efficace
en fait, ça reflète peut-être aussi le type d'organisme. Tu sais, comme on dit, c'est un organisme pour répare, donc il est adapté pour répare, parce que tu sais, on veut pas un cadre qui est de 9 à 5 nécessairement, du lundi au vendredi, parce que...
Mais ça cadre pas avec les membres.
Puis souvent,
le matin, on est un petit peu moins efficace en général. Moi, mon groupe de parole, c'est le soir, un lundi, par mois. Ça varie.
Ça se prête bien la soirée aussi avec la discussion. On dirait qu'il y a comme un côté intimiste plus en soirée. Je ne sais pas pourquoi. Là.
Ça dépend toujours de la disponibilité des gens qui vont vouloir faire l'activité puis s'impliquer. Mais c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Mais de chacun.
Ouais.
Mais c'est ça, tu sais, on y arrive. Tranquillement, peu à peu, les activités s'additionnent l'une après l'autre. On apprend aussi à mieux gérer à l'interne. Bon, c'est toujours possible d'avoir des conflits, des histoires qui sont, tu sais, des choses qui font que les gens sont moins bien dans certaines circonstances, mais on s'adapte au fur et à mesure. On essaie d'avancer puis d'améliorer. Mais vraiment, ça fait longtemps, dernièrement, quelqu'un me disait comment ce que ça y apportait. Puis juste de me dire que des fois, je peux avoir une image que quelqu'un va se dire, « Aïe, moi aussi, peut-être que je pourrais faire une activité. » Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, « Tu m'as inspiré à en faire une. » Puis tout ça, ça m'a redonné confiance.
Et c'est ça qui est thérapeutique. C'est ça qui aide les gens aussi, à donner l'exemple, puis donner le goût au monde de s'en sortir, puis de faire...
Puis de faire plein de choses,
améliorer
en
leur
fait.
Vie.
C'est ça. C'est qu'il y a, tu sais, il y a des moyens de s'affirmer plus, de sociabiliser, il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut faire qui sont pas nécessairement... C'est de pas se concentrer seulement sur nos difficultés puis nos incapacités.
Ouais.
C'est de focusser sur ce qu'on peut faire.
Ouais.
On essaie d'avoir un service d'accueil qui est un petit peu... C'est pas un service, mais un endroit d'accueil pour les nouveaux membres. Ouais. Donc, il y a moyen de prendre rendez-vous maintenant, mais c'est ça. Fait que ça
physiquement, ça se fait où? Parce que selon les activités, des fois, ça vous prend des locaux plus grands.
Ben, le local précis, ouais, qui est là depuis 2015, depuis la un peu après la fondation, c'est sur Saint-Vallier. On est juste à côté du métro Beaubien.
OK.
Fait que c'est ça, on est vraiment, vraiment accessible.
Très, très accessible par métro, on est accessible. Beaubien, tout ça. Puis la meilleure façon d'avoir des infos, est-ce que c'est le site web? Puis qu'est-ce qu'on doit surveiller, en fait?
Bien, c'est pas tout le monde qui a Internet, non? Mais pour ceux qui l'ont, ça a été créé par un membre, puis c'est fait les mises à jour par les membres. C'est le rebond. .net.
Ouais. Puis sinon,
par trois mois, ouais, qu'on change les activités.
Sinon, le bon vieux téléphone est toujours aussi disponible. Là. Le téléphone, c'est toujours intéressant. Déjà qu'il n'y a pas Internet.
Oui, c'est ça. Fait que pour le numéro de téléphone, c'est le 438, le 404-9909. Puis, c'est ça, l'adresse exacte, c'est 7510. Ouais.
7510 Saint-Vallier.
Ça ressemble à... C'est sûr que c'est pas toujours, toujours ouvert, là, mais...
C'est pas très loin de l'adresse dans la chanson de Beaudommage, me
oui,
semble.
Oui, c'est ça, 77, on n'est pas très 60, loin.
Saint-Vallier, c'est juste un peu plus bas.
On est juste à gauche du ciel aussi, mais c'est ça, on est dans la paroisse, en fait.
Ouais.
La paroisse.
Dans le temps, il y a beaucoup de gens qui allaient spawner sur la rue Saint-Vallier, mais là, ils pourraient y aller pour le rebond, c'est
On est vraiment chanceux d'être juste à côté du métro.
Oui, ça, c'est super intéressant. Mitsu, merci d'avoir été des nôtres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il reste peut-être 30 secondes en terminant. Une invitation aux gens ou toujours le financement est toujours bienvenu aussi, les gens qui voudraient vous aider.
Oui, ben maintenant qu'on a un numéro de charité, peut-être là, que ça peut être plus simple, mais sincèrement, c'est surtout de garder l'esprit ouvert puis d'être moins dans la stigmatisation puis de dédramatiser la santé mentale. C'est important qu'on en parle.
C'est un peu comme tu dis, de rester l'esprit ouvert, donc de rentrer un peu dans votre modèle qui est différent, tu sais, qui est un peu... Non péjorativement, là, de rentrer dans votre folie puis rentrer dans votre façon de voir les choses.
T'sais. Exactement.
C'est vraiment bien. Merci beaucoup, Mitsu, d'avoir été des nôtres. Et puis, bonne continuité avec le rebond. Donc, le rebond.net pour les gens qui veulent en savoir plus. Merci et à une prochaine. Bonne continuité.
Merci. Bye-bye.
Yeah. voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous, visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Poursuivons donc au micro avec l'espresso allongé, le même sujet entamé plus tôt, Pierre. Hitler était-il un malade mental?
Oui, et dans la première partie, je vous avais parlé, j'étais en train de parler en fait d'une expérience qui avait été menée à l'université Yale au début des années 60. On avait placé un acteur derrière une vitre et on lui faisait apprendre des mots. Et s'il ne parvenait pas à retenir les mots, on faisait faire à un sujet... on l'obligeait à donner des chocs électriques à l'acteur qui était de l'autre côté de la vitre, mais en fait, il n'y avait aucun choc électrique.
Oui, il y a eu une émission, je pense, française qui a essayé le même exercice.
Oui, mais l'administration des chocs augmentait de 15 volts jusqu'à une limite de 450 volts. En fait, l'acteur ne recevait aucun choc, comme je le disais, mais il simulait une souffrance croissante et à partir de 150 volts, il suppliait de mettre fin à l'expérience. L'expérimentateur encourageait quand même le sujet qui distribuait les chocs électriques à continuer. Et à partir de 285 volts, l'acteur poussait des cris de souffrance, créant chez le sujet un conflit entre l'obéissance à l'expérimentateur et sa conscience personnelle. Les résultats montrèrent que 62,5% des sujets étudiés utilisèrent l'intensité maximale de 450 volts lorsqu'ils étaient supervisés par un responsable, mais seulement que 2,5% des sujets atteignirent ce plateau en l'absence d'un responsable. Donc, ça prouve à quel point l'autorité peut avoir une influence sur ta conscience personnelle.
Oui, c'est tout un exercice à prouver jusqu'où tu irais si tu devrais le faire pour obtenir des informations envers un terroriste. Ouais.
Tu disais que Hitler mettait ça en place?
Non, ça c'est une expérience là, qui est complètement à part de Hitler et les nazis. C'est une expérience qui visait à démontrer
l'autorité
jusqu'à où ça peut te pousser.
Puis d'obtenir des informations, comme je disais, pour un terroriste, jusqu'où tu irais pour les obtenir, si jamais beaucoup la vie de gens est en danger.
Ouais. Alors, pour revenir à Stanley Milgram de l'Université Yale, qui avait concocté cette expérience, il avait demandé à 40 psychiatres de prédire les résultats de cette expérience et il y avait un consensus sur la prédiction qu'aucun des sujets n'oserait utiliser la puissance électrique maximale. Cette recherche apporte un éclairage étonnant sur la perception que nous avons de la nature humaine. Je reviens maintenant, je saute plus loin, je reviens avec les nazis. On retrouve aussi le rôle de la passivité de la nature humaine. À titre d'exemple, suite aux persécutions juives en Allemagne et en Autriche, le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, convoqua une rencontre internationale à Évian, en France, du 6 au 16 juillet 1938, dans le but de venir en aide aux réfugiés juifs fuyant le nazisme. 32 pays participèrent à cette conférence, mais les résultats furent très décevants. La République dominicaine fut le seul pays à ouvrir ses portes à un nombre important de juifs. Albert Einstein, encore mon ami Albert, il voyait juste quand il avait écrit « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » Un peu plus loin, Hitler fut un politicien extrêmement doué et son magnétisme puissant lui permit d'obtenir l'appui inconditionnel de nombreux collaborateurs qui endossèrent avec fanatisme son idéologie sur la supériorité raciale aryenne et sur l'objectif de créer une race de seigneurs susceptibles d'imposer un ordre mondial.
C'est pour ça, en fait, qu'il y a eu un certain succès, parce qu'il y a eu des appuis assez tôt, finalement.
Oui, comme je le disais un peu auparavant, c'était un excellent manipulateur et ses proches aussi. Des hommes très intelligents, mais avec d'énormes problèmes de personnalité. Au procès de Nuremberg, Joachim von Ribbentrop avait confié au psychiatre Kelly, au psychologue Gustav Gilbert, l'importance du lien qui le rattachait à Hitler. Il avait dit « Même si je suis emprisonné pour le procès de ma vie, si Hitler entrait dans cette pièce et me commandait n'importe quoi, je lui obéirais immédiatement sans aucun égard aux conséquences. » Tu vois, lui, il admettait prêter allégeance là, à son chef, peu importe pourquoi. Et le puissant magnétisme d'Hitler lui permit de recruter des collaborateurs fanatiques et ingénieux qui jouèrent un rôle de premier plan dans la nazification de l'Allemagne. Sans le sens de l'organisation de Martin Bormann, qui consignait tous les ordres et les discours du Führer, la gestion interne de l'Allemagne aurait été chaotique. Sans le génie de la propagande de Goebbels, Hitler aurait eu beaucoup de difficultés à substituer les valeurs traditionnelles en Allemagne par une idéologie anti-humaniste et raciste. On a encore peu de temps, mais je n'aurai pas le temps de lire tout l'article, mais je continue. La répression des opposants et de l'opinion publique aurait été moins efficace, on s'en doute. Sans la mise sur pied par Himmler, un autre proche collaborateur, d'un programme d'entraînement et de conditionnement à un protocole d'obéissance absolue aux ordres, Hitler aurait rencontré beaucoup de résistance dans l'exécution des tâches les plus cruelles. Alors, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « L'escroc » et c'est écrit par M. Paul Lefort aux éditions Percé. Mais vous allez voir l'article aussi sur Internet en tapant « L'escroc ».
Merci beaucoup, Pierre, oui, pour ce sujet. Donc, Hitler était-il un malade mental? Merci, Chelin, aussi pour ta participation. On continue en chanson à Folie douce.
Sing. Vous syntonisez l'émission Folie Douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
Pour compléter ce rendez-vous de Folie Douce, on va faire la nomenclature des chansons, Ghislain. Oui. Donc, on écoutait en début d'émission « Je ne m'y attendais pas ».
De Cléa Vincent.
On a pu entendre « Burning Flame ».
Du groupe de Franklin Electric.
En deuxième demi, on a entendu « Senja ».
Oui, de La Féline.
Et à l'instant, « My Dance Floor ».
De Radio Radio.
Merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde.
Bienvenue.
Et merci également pour ton bloc Espresso et Espresso allongé où tu nous as posé la question « Hitler était-il le malade mental? » On n'a pas vraiment répondu à la question, mais d'une certaine façon, je pense que...
C'est plutôt des graves troubles de la personnalité.
C'est ça. Ouais. Et s'il avait été de notre époque, je pense qu'il aurait été diagnostiqué certainement. Oui. Là. Merci beaucoup pour ce sujet, c'est intéressant. Je remercie notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie qui nous a parlé des 25 ans d'Action Autonomie, qui nous a parlé aussi de la mission et nous a rappelé un peu ce que fait Action Autonomie dans la société pour la santé mentale et pour les gens. On a eu notre invité Mitsou Lefebvre-Lafrance qui nous a présenté l'organisme Le Rebond. Donc, tout ça dans le menu cette semaine à Folie Douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Pop, 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 pop